Alors bonjour, pour eux, pour plusieurs. On va lire un texte dans l'évangile de Jean, et c'est la suite de notre passage de Jean. Donc c'est Jean 3, et versets 22 à 36. Jean 3, versets 22 à 36. Peut-être. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On va s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci encore pour ce chapitre de l'Évangile de Jean. Et Père éternel, nous t'invoquons, Seigneur, nous demandons, parce que tu as dit « demandez, vous recevrez ». Seigneur, nous demandons que tu nous bénisses par ta parole, parce qu'elle est la vie. Seigneur, c'est toi qui par elle nous sanctifie, qui par elle nous touche, nous transforme, nous parle. C'est toi qui la rend vivante. Seigneur, merci parce que tu te sers de pécheurs comme nous, sauvés par grâce, pour communiquer, Seigneur, et partager ta parole. Bénis-la, s'il te plaît, Seigneur, et fais-nous du bien à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans notre passage ce matin, il est question des baptêmes. Je dis des baptêmes parce que dès le verset 22, on voit qu'il y a deux baptêmes. D'abord, il y a le baptême de Jean, donc c'était le baptême de repentance. Hein. Vous lisez ça au début des évangiles, Matthieu, Luc. Et donc, le baptême de repentance était un baptême qui préparait à la venue du Messie. C'est-à-dire que les Juifs étaient parfois très loin de Dieu, dans le péché. Et par le baptême de Jean, eh bien, ils prêchaient, ils les secouaient hein, en disant « Mais le royaume de Dieu vient !» Repentez-vous, repentez-vous. Il préparait les cœurs pour que quand Jésus-Christ allait venir, eh bien, il puisse céder et croire. Et puis ensuite, on voit qu'il y avait le baptême de Jésus, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus ou le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là encore, le premier baptême ne sauvait pas, il préparait les cœurs. Ce deuxième baptême au nom de Jésus ne sauve pas non plus, hein, ce n'est pas le baptême qui sauve une personne, mais cette fois c'était le signe que l'on a cru en Jésus-Christ, hein, que l'on croit en lui, que l'on croit au Messie, que l'on le reçoit. Alors eh bien, en obéissance à Jésus-Christ, puisqu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ». Et donc, celui qui croit en Jésus-Christ, il veut le montrer, il veut obéir au Seigneur et il se fait baptiser en image de sa mort et de sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc ça ne sauve pas, mais c'était un signe de la foi qui était dans le cœur de la personne. Et on voit que le baptême au nom de Jésus était pratiqué pendant le ministère du Seigneur.
Et là, c'est un peu étonnant parce que parfois on se dit, mais le baptême de Jésus, c'est à partir de la Pentecôte. Et en fait, eh bien, il semble que déjà les disciples baptisaient au nom du Seigneur alors que Jésus était encore sur terre. Et dans notre texte, au verset 22, au premier abord, il semble que Jésus baptisait lui-même. Mais quand vous lisez un petit peu plus loin, vous apercevez que Jésus ne baptisait pas lui-même. En fait, il est dit qu'il baptisait parce que c'était en son nom, mais c'était les disciples qui baptisaient. Donc, en sa présence, et vous le lisez, regardez Jean 4, versets 1 et 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, Jésus était présent, mais ses disciples baptisaient tous ceux qui venaient et qui voulaient vraiment croire et qui se donnaient à Jésus-Christ. Et donc, tous ces baptêmes qui étaient faits au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ont commencé à poser des problèmes aux disciples de Jean-Baptiste, c'est-à-dire à ceux qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Parce que ceux qui avaient ceux qui avaient suivi Jean-Baptiste dans le baptême de repentance, eh bien, n'avaient pas forcément compris qui était vraiment Jésus-Christ. Alors, ils avaient entendu Jean-Baptiste, « Repentez-vous, soyez baptisés en signe de votre contrition. » Ils l'avaient fait, et puis Jésus était là, et ils n'avaient pas compris que c'était en préparation pour recevoir, en fait, Jésus-Christ. Ils savaient que Jean-Baptiste avait rendu témoignage à Jésus au-delà du Jourdain, c'est ce qu'il avait fait, mais il n'avait pas compris l'importance de la personne de Jésus. Ça paraît incroyable. Regardez verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. C'est incompréhensible pour eux. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste, prophète de Dieu, ça, il le savait. Aucun doute, Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Mais Jésus, il ne savait pas trop. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir que l'important, c'est Jésus seul. Jésus seul. Jean-Baptiste avait pourtant dit à quelques-uns de ses disciples, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ses disciples, on l'a vu, tout de suite, ils se sont mis à suivre Jésus. Mais il y avait plein de disciples qui n'avaient pas entendu Jean-Baptiste. Certains, par exemple, avaient été baptisés par lui, et puis après, ils avaient continué à vivre leur vie. Et donc, ils n'avaient pas entendu cette parole de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, il s'étonnait que Jean-Baptiste soit en quelque sorte un peu supplanté par Jésus. Et il baptise plus que toi. C'est pas possible, ça. Mais l'important, c'est pas le prophète un tel, c'est pas le serviteur un tel, c'est pas le pasteur un tel. L'important, c'est Jésus et Jésus seul. Et dans notre passage, on voit toute l'importance de notre Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus est-il le seul qui compte ? Pourquoi il est au-dessus ? Pourquoi il est devant tous les hommes ? D'abord, on lit verset 27. « Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et certainement, les disciples de Jean-Baptiste l'élevaient très haut. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reconnu en lui un prophète de Dieu. Ils savaient que c'était vraiment un serviteur de Dieu. Et ces paroles de repentance les avaient touchés. Dieu avait agi par son esprit, s'était repenti vraiment. Ils avaient été touchés dans leur âme. Alors, étant la voix de Dieu, eh bien, Jean-Baptiste avait une grande place dans leur cœur. Il était vraiment important. Mais il passait complètement à côté du but de Jean-Baptiste. Parce que le but de Jean-Baptiste, c'était pas d'attirer les personnes à lui-même. Qui était Jean-Baptiste ? Quand on lit l'Évangile, il est dit que c'était la voix de celui qui crie dans le désert et qui dit « aplanissez ces sentiers pour accueillir le Seigneur ». Donc simplement une voix. En fait, Jean-Baptiste était comme un poteau indicateur. Jésus, regardez vers Jésus. Vraiment, repentez-vous en prévision de la venue de Jésus. C'était ça qui était important. Et l'important,
ce n'est pas le serviteur. L'important, c'est celui qui donne au serviteur. On lit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, une parole qui est pertinente à ce sujet, c'est 1 Corinthiens 4, verset 7. Donc on lit, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc voilà, tu n'es rien en fait. Hein? Le serviteur n'est rien. Il ne fait que recevoir. Et donc, ben, la gloire revient à celui qui donne. Ce n'est pas au serviteur lui-même. Personne ne peut se glorifier de quoi que ce soit. Et Jean-Baptiste le premier, eh bien, il ne voulait pas occulter, prendre la place de celui de qui il recevait tout. Versets 28 et 29. Regardez ce qu'il dit. « Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Et Jean-Baptiste le dit bien. Il dit, mais je ne suis pas le Christ. Hein. Ne regardez pas vers moi. Qui était-il ? Il dit qu'il était l'ami de l'époux. Et c'est intéressant ici, parce qu'il ne dit pas qu'il est l'épouse. Vous savez, l'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Hein. Et il ne dit pas, je suis l'épouse. Non, il dit, je suis simplement l'ami de l'époux. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste faisait partie de l'Ancienne Alliance. Il faisait partie des croyants de l'Ancien Testament. Or, il dit, je suis que l'ami de l'époux. Et vous savez, Jean-Baptiste, il ne verra pas Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Puisque quelques semaines, quelques mois plus tard, eh bien voilà, il va être emprisonné et puis il va mourir. Et donc, Jean-Baptiste n'a pas eu le temps de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est inspiré par Dieu qui dit, moi je suis l'ami de l'époux. Je ne suis pas l'épouse, simplement l'ami de l'époux. Et il n'est pas triste, il n'est pas jaloux non plus, hein, pas du tout, hein, d'être qu'un ami, non. Il se réjouit d'entendre la voix de l'époux. Simplement ça. Jean-Baptiste savait qu'il recevait tout du ciel et il ne voulait pour rien au monde attirer les regards sur sa personne. La suite de notre passage nous montre qu'un seul est digne, un seul mérite la louange, l'adoration, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors regardez ce qu'il dit, verset 30. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Et ce qu'il dit ici, c'est que ben, le prophète n'est rien, le serviteur n'est rien. Ce qui compte, c'est le Seigneur. C'est lui qui est au centre, c'est lui le plus important. Et c'est ce que voulait Jean-Baptiste désormais. Il voulait diminuer, il voulait s'effacer, il voulait disparaître pour qu'on ne voit plus que Jésus seul. Et la gloire de la créature, notre gloire à nous, elle est unique, hein, il n'y en a qu'une, c'est d'élever le Créateur tout le temps. Là, eh bien, on est dans notre rôle. Quand on élève le Créateur et qu'on dit, mais regardez, c'est lui qui est grand, c'est lui qui est digne, c'est de lui que vient toute chose. Ça, c'est notre gloire. Parce qu'il n'y a que là, en réalité, où on goûte à une vraie paix, une vraie joie, où on est épanoui, où on est libéré de nous-mêmes en fait, hein, et de nos péchés. C'est quand la créature se met à sa vraie place, notre vraie place, mais elle est infime, elle est rien, on est rien, on disparaît, et Dieu prend tout. Dieu est Dieu, et nous, on disparaît. Et là, ben, la gloire de Dieu éclate. Et nous, on est dans la joie, on exulte. Parce que ben, c'est Dieu que l'on voit. Quand on disparaît, c'est Dieu que l'on voit. C'est merveilleux. Il faut qu'il croisse. Et moi, que je diminue. Jésus est digne de prendre toute la place. Et Jean-Baptiste avait compris cela par révélation. Pour lui, c'était une évidence. Il voulait maintenant céder toute la place et se mettre en retrait et que Jésus soit sur le devant de la scène. Mais vous savez, cette attitude de Jean-Baptiste, eh bien, Dieu veut qu'elle devienne et qu'elle continue à être une réalité dans notre vie personnelle, à chacun. Il veut que ce soit une réalité. Est-ce que nous pouvons dire que chaque jour, nous diminuons pour que Jésus croisse et croisse et prenne toute la place? C'est lui le centre, c'est lui l'important. Et d'une manière pratique, d'une manière concrète, ça veut dire pour nous que Jésus veut être le maître de nos vies. Il veut être le Seigneur et le maître de nos vies. Trop souvent, on prend des décisions qui ne sont pas ses décisions. Trop souvent, on écoute notre propre cœur et on se repose sur notre propre sagesse ou sur notre bon sens. Et là où Jésus devrait avoir toute la place, eh bien parfois il a une petite place dans certaines décisions. Hop. Peut-être il y a plein de domaines où on obéit, puis il y en a d'autres où on ne le laisse pas agir. On prend nos propres décisions. Mais il faut qu'il croisse et que nous diminuons sans cesse. Et ça, c'est pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Jésus doit remplir tout en tous. C'est ce qu'on lit dans les Épîtres. Et c'est intéressant de voir, mais quand la joie parfaite de Jean-Baptiste est-elle venue? Quand est-elle venue? Quand il a entendu la voix du Seigneur. Ça y est. Quand il a entendu la voix, ça y est, sa joie était parfaite, parfaite. Il était heureux. Et sa voix a fait taire la sienne à Jean-Baptiste. La voix de Jésus a fait taire sa voix. Jean-Baptiste s'est tu et simplement il a écouté la voix du Fils de Dieu. Et là, son cœur s'est réjoui, il était dans une joie parfaite, pleine et entière. Et vous savez, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous, chrétiens. Si l'important pour nous, c'est surtout d'entendre la voix du Fils de Dieu par le biais du Saint-Esprit, c'est-à-dire de discerner quelle est sa voix et quelle est sa volonté dans chacune de nos vies, ben c'est là où on est dans la joie. C'est quand on sait, ah oui Seigneur, tu veux que je fasse ça. Ah oui Seigneur, c'est ça la direction à prendre. Quand on cherche sans cesse et on développe cette intimité avec le Seigneur, en disant « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Là, voilà, il y a une fourche. Quelle direction veux-tu que je prenne? Ah oui, c'est ça. Ça y est, on est en paix. On reçoit une conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, à partir du moment où vous êtes à une fourche et le doute est dans votre cœur, stop, arrêtez-vous. Vous vous arrêtez et vous criez à Dieu, « Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux savoir la direction. Je veux recevoir une conviction de ta part. Je suis prêt à aller à droite ou à gauche. Peu importe. » Vous savez, quand vous avez déjà décidé où vous vouliez aller, vous n'entendrez pas sa voix. Mais si vous mettez en retrait et vous dites, « Seigneur, ta voix et ta volonté, non la mienne. » Alors là, eh bien, Dieu est en mesure de vous montrer quelle est sa direction, quelle est sa voix, quelle est sa volonté. Et donc, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je veux recevoir une conviction de toi. Dieu vous la donne. Ça devient une réalité. Et là, une joie parfaite. Je sais ce que Dieu attend de moi. Je sais quelle direction prendre. Et on avance avec de l'assurance dans le chemin que Dieu nous trace. Et ça devrait être une vraie quête pour nous. Vous savez, c'est le but de notre vie quelque part. Dieu nous laisse ici sur terre pour nous sanctifier et pour que lui croisse et que nous diminuions. C'est-à-dire que lui conduise notre vie en tout. Et là, ça y est, on est en train de faire vraiment ce que Dieu attend de nous. Pourquoi c'est important? Jésus seul. Verset 31. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Jésus vient d'en haut. Il dit ensuite, celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus n'était pas de la terre. Il ne venait pas de la terre, même s'il avait une nature qui était moitié humaine. Hein, il était divin et humain. Hein, il y avait les deux qui étaient en lui. Mais il ne vient pas de la terre. Il venait d'en haut. Il venait du ciel. Et il est descendu du ciel pour nous apporter ce qui vient d'en haut, ce qui vient du Père. Et malheureusement, notre monde ne considère pas Jésus-Christ pour ce qu'il est réellement. Au mieux, ils disent, c'était un prophète, un exemple, quelqu'un d'inspirant, vraiment. Il a dit des bonnes paroles, ça c'est au mieux. Et puis au pire, oh, c'était un révolutionnaire, un anticonformiste. Hein. Aujourd'hui, ça sonne bien. Mais Jésus était bien plus que cela. Il venait d'en haut. Il venait du ciel. Et le Fils, il existe de toute éternité. Il était là avant que le monde soit. Il existe depuis toujours. Et il est descendu de son trône de gloire. Et il a pris une morphée de Dieu, une morphée d'homme, pardon. Donc il s'est dépouillé de sa forme extérieure de Dieu et il a pris une forme extérieure humaine. Il est devenu un homme, un serviteur au milieu de nous. Alors, eh bien, venant du ciel, Jésus est au-dessus de tous. La semaine dernière, on a vu un verset qui parlait aussi de cela. Regardez, c'est le verset 13, un petit peu avant, Jean 3, 13, où nous lisons « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et personne, absolument personne, n'est descendu du ciel à part Jésus-Christ, à part le Fils de l'homme. Et ça, c'était une réalité. Et la Bible explique que même le ciel était fermé. Il était interdit. Personne ne pouvait entrer dans le ciel avant que Jésus-Christ ne soit crucifié pour nos péchés. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Et tant que le péché n'était pas réglé, tant qu'il n'était pas expié sur la croix, ben, le ciel était fermé. Mais alors les croyants de l'Ancien Testament, ben, même les croyants de l'Ancien Testament, tant que Jésus-Christ n'était pas mort, il ne montait pas au ciel. La Bible dit qu'il descendait dans le sein d'Abraham, le croyant. Et donc ils étaient dans un lieu à part, un lieu où ils étaient dans l'attente, hein, et ils attendaient, eh bien, que le Fils fasse l'expiation, que Jésus paye pour nos péchés. Et après seulement, eh bien, il pourrait monter au ciel. Et donc, c'est une réalité, là. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Alors, qui pouvait dire ce qu'il y avait dans le ciel ? Qui pouvait parler de l'éternité ? Personne, à part Jésus-Christ. Celui qui était descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Jésus est dans le ciel. Bien sûr, ici, il est descendu pour une période très courte. Hein, on regarde l'éternité, c'est rien. Hein, sa vie sur terre et son ministère. Et on peut dire que Jésus est dans le ciel, d'une manière permanente, d'une manière éternelle. Il est dans le ciel. Alors, eh bien, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Regardez verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Jésus était dans le ciel. Il a vu, entendu, bien sûr, le Père. Hein. Qui peut mieux expliquer que lui ce qui se trouve dans le ciel ? Personne, excepté le Fils de l'homme. Et Jésus nous parle, aujourd'hui encore, par les Écritures, de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Ou si peu. Si peu qu'on peut dire personne. Si peu. C'est une triste vérité. Mais pour nous, pour ceux qui reçoivent son témoignage, alors, eh bien, l'important, c'est Jésus. Et Jésus seul. Verset 34. « Car Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus disait les paroles de Dieu. Et ce n'est pas qu'il disait des paroles de Dieu. Vous savez, un serviteur de Dieu peut dire des paroles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, par grâce, hein, peut remplir sa bouche et il dit des paroles de Dieu. Mais lui disait les paroles de Dieu tout le temps. Hein, tout le temps. Il ne disait que les paroles de Dieu. Parce qu'il était la parole vivante. Parce qu'il était la parole qui s'était faite chair. La parole incarnée. Et il n'agissait que dans une parfaite dépendance avec son Père. J'aimerais qu'on lise un passage un petit peu plus loin, c'est Jean 8, et versets 27 et 28. Il est écrit, « Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. » Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, ou que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jésus ne faisait rien de lui-même. Rien. Absolument rien. Et sa parole n'était que celle qui venait du Père. Comment c'était possible ? Il était un homme aussi comme nous, hein ? Mais il est dit que Dieu le Père ne lui donnait pas l'esprit avec mesure. Jésus était rempli, inondé par le Saint-Esprit. Alors Dieu nous appelle à tous être remplis du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, qui l'ont accepté, qui sont sauvés, eh bien ça devient une réalité quand on se consacre à lui. Quand on lui donne sa vie chaque jour, chaque matin, et on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi pour vivre cette journée. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Révèle-moi si j'ai péché. Pardonne-les. Et puis aide-moi à vivre pour toi cette journée. Remplis-moi de ta personne. » Ça devient une réalité. Il nous remplit du Saint-Esprit. Malheureusement, si Dieu nous exhorte à être remplis de l'Esprit, s'il nous dit « Soyez remplis de l'Esprit », c'est que nous ne le sommes pas tout le temps. Ça, c'est aussi une vérité. Nous ne le sommes pas naturellement. Ça ne vient pas naturellement. Notre cœur, eh bien, il reste pécheur. Nous sommes des pécheurs. Et parfois, bien qu'on ait donné notre vie à Jésus-Christ, nous sortons en quelque sorte de la main de Dieu. On sort de sa main. Alors que Dieu dit, mais reste dans mon amour, reste dans ma volonté. Nous sortons de sa main. On prend notre vie par les rênes en disant « Mais je sais par où il faut aller, je vais y aller. » Et là, on sort de sa main. Il suffit parfois de certaines circonstances qui nous affaiblissent. Parfois, il y a une corde sensible. Et d'un seul coup, hop, on sort de sa main. La dernière fois, j'étais au volant et un poids lourd qui grille un stop devant moi. Ouh là là ! D'un seul coup, je suis sorti de sa main. Hein, la colère, hein, voilà, c'est malheureux, hein, mais on peut sortir de sa main. Dieu nous dit, reste dans ma main, ne bouge pas, reste là, obéissant, fidèle. À ce moment-là, l'Esprit nous remplit. L'Esprit nous remplit. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus-Christ. Jésus-Christ était différent de nous. Il restait dans l'obéissance à son Père, à chaque instant. On pouvait lui marcher sur le pied et rester dans la main du Père, fidèle au Père. On pouvait le gifler, ne bougez pas. Le frapper, lui dire des paroles pour essayer de le piquer, descendre la croix, vas-y, si tu es le Fils de Dieu. On pouvait le provoquer, ne bougez pas. Il restait dans la main du Père. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passait ? Il était rempli de l'Esprit. Tout le temps, rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y avait aucun obstacle en lui, au Saint-Esprit.
Il était dans la pureté, la sainteté, et l'Esprit le remplissait. Rien ne venait faire obstacle. Bien sûr, Jésus est différent, hein. Il venait du ciel. Pour nous, eh bien, Dieu nous exhorte. Il nous dit, mais tendez vers cela. Parce que ce que j'ai donné à mon Fils, je vous le donne. Hein? Il nous a donné le Saint-Esprit, quelle grâce! L'Esprit qui était en Jésus, il nous le donne. Il est en nous. Alors il dit, mais restez dans ma main. Restez fidèles. Demeurez dans mon amour. Verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez que 7 fois, il est répété que le Père aime le Fils. Et là, c'est une des mentions. Et il est certain que le Père aime son Fils éternel. Alors bien sûr, on ne peut pas expliquer que Dieu soit un Père, qu'il est un Fils éternel. C'est quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas l'expliquer. Mais si on pouvait l'expliquer, eh bien on serait Dieu. Hein. Il faut considérer que nous sommes que des créatures. Hein. Et c'est tout. Hein. Mais lorsque Dieu nous parle de sa relation avec le Fils, eh bien, nous pouvons savoir de quoi il s'agit. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est Dieu qui nous a donné de vivre un peu la même chose en faisant de nous des parents. Voilà, et en ayant des enfants. Donc, on arrive à entrevoir un petit peu cette relation, bien que nous, bien c'est très imparfait, nous sommes des pécheurs, mais Dieu, eh bien, avait une relation, et a une relation comme cela avec son enfant. Et un père, normalement, il aime naturellement ses enfants. Combien plus, j'imagine, si c'est son unique enfant. Alors, évidemment, on peut comprendre qu'il y a une relation particulière entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et je pose la question, y a-t-il amour plus grand que l'amour qui les lie l'un à l'autre ? L'amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors de quel amour Dieu le Père aime son Fils ? D'un amour immense, d'un amour qui dépasse l'infini des cieux. Hein? Voilà, Dieu avec l'espace nous a montré quelque chose d'infini. On ne peut pas. Eh bien, voilà, son amour, c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. Mais pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est incroyable! C'est incroyable! Qu'est-ce que cela veut dire? Que son amour est allé au-delà encore de l'amour exclusif pour son Fils. Ça ne veut pas dire que Dieu a moins aimé le Fils, mais que son amour est allé venu nous chercher dans les tréfonds de notre péché. Comment l'a-t-il fait ? Comment ça a été rendu possible ? Eh bien, par l'amour qui est aussi dans le Fils. L'amour qui est en Jésus. Pourquoi ? Parce que le Père aime le Fils. C'est une vérité. Dieu le Père nous aime. Mais on apprend aussi que le Fils nous aime. Du même amour, puisqu'il est Dieu. Et si Jésus a accepté volontairement de venir mourir pour nos péchés, c'était parce qu'il nous aimait, comme le Père nous aime. En Jean 10, 17, tout à l'heure, et durant le culte, il était affiché ce verset, hein, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et on peut dire que c'est la conjugaison, en quelque sorte, de l'amour du Père et de l'amour du Fils qui a rendu notre salut possible. Le Père n'a pas forcé le Fils. Et le Fils ne s'est pas senti obligé par le Père, mais tous les deux nous ont aimés d'un amour incommensurable. Et les deux ont donné ce qui leur a coûté le plus, finalement, pour notre salut. Pourquoi ? Parce que le Père a donné son Fils unique et le Fils a donné sa propre vie. Hein, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous avez le plus grand amour, le Père donnant son Fils, le Fils donnant sa vie. Jésus, mort sur la croix pour nous, ça c'est la preuve infinie de l'amour du Père et de l'amour du Fils, pour chacun d'entre nous. Alors voilà, le salut est offert. Tout est accompli. Et regardez ce qu'il dit ensuite, hein, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Et on peut dire que, en quelque sorte, Jésus a carte blanche pour ouvrir le ciel à celui qui croit en lui. Tout repose sur le Fils. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que notre attitude de cœur vis-à-vis de Jésus, notre foi ou notre incrédulité, notre vie offerte ou notre vie retenue, hein, et notre indépendance, hein, eh bien c'est ça qui détermine notre éternité. Ça détermine notre futur, l'éternité. Et on voit ici l'importance de Jésus et Jésus seul. Tout repose sur Jésus et Jésus seul. Nous sommes appelés d'ailleurs à ne croire qu'en Jésus seul. C'est important aussi, vous savez. Il n'est pas question de croire en Dieu pour aller dans le ciel. Hein ? Croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Dire « je crois en Dieu », c'est flou. Hein ? Vous savez, Dieu, ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui disent « je crois en Dieu » et qui poussent des arbres. Ils entourent les arbres. J'en ai déjà vu au Palais des Congrès, là, en train de serrer les arbres parce qu'ils adoraient la nature, en fait. Hein ? Voilà, Dieu, c'était ça pour eux. Donc Dieu, ça ne veut rien dire. Et il n'est pas question de croire en Dieu. Non, ça ne suffit pas. Il n'est pas question non plus d'être une bonne personne et d'avoir une vie morale. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui ouvre le ciel. Non, c'est pas ce que dit le verset. Il n'est pas non plus question de se retenir de faire le mal. C'est bien de se retenir. Mais ce n'est pas ça qui ouvre le ciel. Non, il n'y a qu'une seule chose importante, c'est notre attitude vis-à-vis de Jésus. Quelle attitude ai-je vis-à-vis de Jésus ? Et Jésus seul. Toutes choses sont entre ses mains. Il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu le Père. Jésus-Christ est donc au centre du salut, du plan du salut pour l'éternité. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il ne verra pas la vie. Non seulement il ne verra pas la vie, mais en plus la colère de Dieu demeure sur lui. Et tout se détermine là. Croire ou ne pas croire au Fils. Alors certains peuvent se dire, bon c'est bon, moi je crois. Je crois au Fils. Je crois en Jésus-Christ. Donc tout va bien. Mais il y a aussi une chose importante à comprendre. C'est que lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il faut croire au Fils, elle nous dit qu'il faut croire au Fils seul. Au Fils seul. Que le Fils. Parce que vous savez, des fois on croit au Fils, mais on croit aussi beaucoup en soi-même. Hein ? On se dit, oui, le Fils a fait beaucoup pour moi, je crois en lui. Mais quand même, je vais ajouter ma petite pierre au salut. Hein ? Parce que moi, quand même, je suis une bonne personne, quoi. Donc je vais rajouter ma pierre au salut pour essayer de me sauver moi-même. Mais c'est mal comprendre l'Évangile. On a vu un verset à l'étude biblique vendredi, c'était « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et tant que vous ne pensez pas que vous êtes perdu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, tant que vous ne réalisez pas que vous êtes perdu, vous ne pouvez pas être sauvé. Il faut comprendre que vous êtes perdu.
que sans Jésus seul, eh bien, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. À cause de votre péché. D'autres croient au Fils, mais ils se disent, oui, mais quand même, il faut passer par telle religion, telle église, tel mouvement, telle règle. Non, c'est pas ce que dit le verset. Le verset dit, crois au Fils. C'est tout, seul. Seul le Fils. Ça suffit. Ou bien d'autres croient au Fils, mais ils sont pas prêts à abandonner leur péché. Ils sont pas prêts à se repentir, en fait. Ils croient au Fils, mais ils continuent à faire ce qu'ils ont envie, en fait. Hein. Ou ils sont pas prêts à se consacrer à Jésus-Christ. Vous savez, pour certains, nous sommes des grenouilles de bénitier. Hein. Quand même, c'est pas possible. Aller à l'église tous les dimanches, mais c'est quoi ça? C'est trop absolu, hein. Trop absolu. Mais vous savez, si on connaît Dieu et on aime Dieu, il ne peut pas en être autrement. Parce que ça bouleverse votre vie. C'est comme quelqu'un qui dit « Oh, moi, je suis footballeur, mais il ne touche jamais un ballon de football. » Ou bien « Moi, je suis pianiste, mais il ne touche jamais un pianiste. » On ne peut pas dire « Moi, je suis un chrétien, mais je n'adore jamais Jésus-Christ. Je ne donne pas ma vie à Jésus-Christ. Et je n'ai pas forcément envie de lire la Bible. Je n'ai pas envie de prier. Mais quand même, je crois en lui. » Ben non. Non, c'est soit je me donne entièrement, soit je ne suis pas dedans en fait. Hein. Je n'ai pas cru au Fils. Et il n'y a que cette foi-là qui sauve. Celui qui croit au Fils seul, en Jésus seul, il a la vie éternelle. Maintenant, il la reçoit. Et celui qui ne croit pas, eh bien, il ne verra pas la vie. Et il connaîtra la colère de Dieu. Parce que Dieu est en colère contre le pécheur qui ne se repent pas. Je termine par un verset de l'Ancien Testament où il est dit « Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu place un choix devant nous. Hein. Avec la parole de Dieu, il nous dit « Choisis. » Tu es libre. Nous sommes tous libres. On peut choisir de croire ou choisir de ne pas croire. Voilà. Mais la balle est dans notre camp. Choisis le Fils seul. Et alors tu vivras. Peut-être juste, je vous invite à méditer cela pendant un court instant. Si vous voulez fermer vos yeux. Et je vais demander à Francisco si c'est possible de lire, de chanter en Jésus seul, si tu veux bien. En Jésus seul. Je sais pas.
Le 27. Quel amour, quel bonheur. terre, mes frayeurs, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour de Christ je me tiens. Le don d'amour, de sainteté, haït par ceux qu'il vient sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Celui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Son corps dans une tombe, la lumière du monde s'éteint, mais par sa vie qui surabonde, Jésus entre les morts revient. Dans sa victoire, il m'a sauvé, le mal n'a pas pu triompher, je suis à lui. À qui va le sang de la croix. Face à la vie, face à la mort, l'Esprit de Jésus me rend fort. Désormais pour l'éternité, le Seigneur Dieu est mon. Les plans des hommes.